je faut ni d'être meilleur quand même.
Je n'ai jamais voulu que mes enfants aillent dans une école privée. Ça n'a jamais été mon truc parce que je viens d'une famille modeste. Mais je ne voulais pas qu'ils aillent à l'école dans la rue de Strasbourg.
Cette école a une réputation selon laquelle on ne peut pas entrer au lycée après. On n'a pas de classement des écoles fondamentales dans ce pays, mais ce classement existe dans la tête des parents.
Tous les parents veulent le meilleur pour leurs enfants. Cela vaut pour moi comme pour les autres. Chacun essaie de se positionner de façon à ce que ses enfants aient des chances de réussir.
Le sujet de cet épisode est le pouvoir des parents dans notre système scolaire. Aujourd'hui, je vous amène encore une fois dans le quartier de la Gare en ville, où ce podcast a commencé dans le premier épisode. Ces dernières années, l'école du quartier de la Gare a été le théâtre de nombreuses controverses, notamment à propos d'une question d'organisation qui, à première vue, semble assez banale. C'est-à-dire la question « comment les enfants du quartier sont répartis entre les deux bâtiments scolaires ?» Il s'agit de la taille des classes, des ressources de personnel et des chemins d'école. Mais les inégalités sociales sont un autre enjeu. Et aussi l'influence des parents mieux situés qui interviennent dans l'intérêt de leurs enfants. Mon nom est Pia Oppel, je suis journaliste pour Radio 100.7 et dans ce podcast, je vous raconte l'histoire d'un mauvais élève. Il s'agit de notre système scolaire qui s'en tire plutôt mal en comparaison avec les équivalents internationaux et où les résultats scolaires des enfants dépendent beaucoup de la situation financière de leurs parents. Et comme à chaque fois, voici le petit rappel que la version luxembourgeoise de cette série podcast a été publiée en 2022. Mauvais élève, un podcast de Radio 100.7, sixième et dernier épisode de Bonne Famille. Peu après 8 heures du matin dans la rue du Commerce, quartier de la Gare en ville, un cours de mathématiques en sixième année d'école fondamentale.
Vous pouvez déjà prendre votre livre de mathématiques. Vous
pouvez vous. Je m'appelle Alvin, j'ai 26 ans et je viens du quartier Bel Air de la ville de Luxembourg. En maths, je travaille en français et en allemand. Enfin, il faut parfois expliquer l'une ou l'autre chose une fois de plus en luxembourgeois, parce que même si les élèves parlent des langues différentes à la maison, ils parlent luxembourgeois entre eux. Et c'est la langue qu'ils maîtrisent le mieux en ce qui concerne la compréhension et l'oral.
Alvin Carlet passe un tiers de la leçon à expliquer le vocabulaire de l'exercice de maths.
Ihr sollt jetzt hier schauen, was wird mich am billigsten, wenn ich ein Tetrapack kaufe, si j'achète des briques, si j'achète des bouteilles non consignées.
Les élèves se mettent au travail.
Je m'appelle Obaida, j'ai 12 ans, j'aime le foot et le basket. Je viens de Syrie et je parle arabe chez moi.
Je suis Boubacar, j'ai 12 ans, j'aime beaucoup le basket, c'est mon passe-temps.
Et où es-tu né?
En Guinée.
Un quart d'heure plus tard, Obaida et Boubacar n'ont pas trouvé quel jus d'orange est le moins cher. Alvin Carlet leur donne un indice.
C'est vraiment assez difficile pour eux. Enfin, pas pour tout le monde, il y a toujours des enfants qui comprennent mieux, mais pour la plupart, c'est plus difficile. C'est pour ça que je dois beaucoup expliquer au début. Et ensuite, ils travaillent souvent en groupe parce que c'est plus facile pour eux.
Le cours de maths est terminé, aucun groupe n'a résolu le problème.
Hauptsache, du bist nicht verlöst. Ich glaube, du bist nicht verlöst. Das ist ein Problem.
J'ai des enfants qui ont l'âge normal, c'est-à-dire 11, 12 ans, mais la plupart des enfants sont plus âgés. Ils ont déjà redoublé une classe. Respectivement, à leur arrivée à Luxembourg, ils ont été recalés d'un ou deux ans.
C'est une école où il y a beaucoup de va-et-vient parmi les élèves. Comment vis-tu cette situation ?
Au quotidien, c'est parfois difficile. Enfin, on s'y habitue, tout est une question d'organisation, d'habitude. Souvent, on nous informe un jour, parfois quelques heures avant que les nouveaux enfants arrivent. Enfin, c'est le service de l'enseignement. Mais ils n'y peuvent rien non plus parce que les parents viennent de les inscrire à ce moment-là. Et puis, le lendemain, les enfants arrivent tout de suite à l'école. On reçoit parfois un mail le soir ou l'après-midi. Tu auras un nouvel élève. Et puis, c'est un peu dans le genre « débrouille-toi ».
En ce moment, tu as un ou deux élèves de ta classe qui pourraient aller dans un lycée classique. Est-ce que c'est la moyenne pour cette école ?
Oui, en partie. Cela dépend aussi un peu des classes que l'on a. Parfois, on a des classes plus faibles, parfois des classes plus fortes. Mais en soi, il n'y en a probablement pas autant que dans les autres écoles.
Tous les élèves de la classe d'Alvin Carlet sont issus de milieux modestes et parfois précaires.
Je trouve ça dommage, en fait. Je pense que beaucoup de gens n'envoient plus leurs enfants à l'école ici à cause du quartier. Et parce qu'ils pensent peut-être, c'est une mauvaise influence, peut-être qu'il y a des enfants là-bas dont les parents travaillent en tant que dealers de drogue ou quelque chose dans ce genre. C'est peut-être possible, je ne peux pas le dire exactement. Mais les enfants que j'ai ici sont très gentils. Je suis tellement contente d'être avec eux, je ne peux plus m'imaginer autre chose. Je suis vraiment heureuse et je viens d'un quartier très privilégié, je dois l'avouer. Mais je pense que je ne veux plus du tout travailler ailleurs.
Je suis wirklich froh. Und ich komme ja aus einem privilegierten Quartier, muss ich sagen, gell? Ich will auch gerne mit ihnen zusammen, dass das hin.
Pourquoi?
Je ne sais pas, c'est en quelque sorte une école avec un grand cœur.
Un sex shop est situé en face de l'école rue du Commerce. Il y a des prostituées sur le trottoir. Une scène de drogue ouverte marque cette partie du quartier. À 500 mètres à vol d'oiseau de l'école dans la rue du Commerce se trouve un autre bâtiment qui fait également partie de l'école de la gare. L'école Welter est située dans une rue calme avec des arbres et des maisons unifamiliales. Ici, on est dans la partie la plus chic du quartier. Peu après 8 heures du matin à l'école Welter, en cours d'allemand au cycle 4.
Je m'appelle Albonetti Raoul, j'ai 42 ans et je travaille actuellement en tant qu'enseignant dans une petite école en ville, l'école Michel Welter. Et oui, je m'occupe d'un cycle 4, c'est-à-dire une classe composée d'une 5e et 6e année d'école fondamentale.
Raoul Albonetti n'a pas suivi le parcours traditionnel. Il travaille depuis 2 ans comme enseignant. Auparavant, il était entre autres acteur et animateur de télévision. À l'école aussi, il fait de son mieux de divertir son public. En tant que l'une des voix synchronisées de la version luxembourgeoise des Simpsons, les imitations font partie du répertoire de Raoul Albonetti en classe. En tant que débutant dans cette profession, Raoul Albonetti n'a pas eu beaucoup de choix quant à l'école dans laquelle il pourrait travailler. Ce sont souvent les postes les plus difficiles qui restent quand les enseignants avec plus d'ancienneté ont fait leur choix. Comme une classe de cycle avec 18 élèves dans le quartier de la gare.
La grande question pour moi, c'était comment enseigner à 2 classes différentes parallèlement. C'était très chaotique pour moi et mes enfants. Mais ils étaient très compréhensifs, et les parents aussi, Dieu merci. Dès le début, j'ai mis les cartes sur la table, j'ai expliqué l'affaire, j'ai dit voilà, moi aussi j'apprends encore.
Mais Raoul Albonetti a de la chance, sa classe lui rend le travail relativement facile.
Il s'agit d'11 élèves du cycle 4-2, dont 7 vont entrer au classique. Ce sont donc des élèves doués.
Et ils ont tendance à venir de milieux plus aisés. Parmi les parents, il y a des juristes, des médecins, des économistes et des entrepreneurs.
La plupart d'entre eux viennent de très bonnes familles. Pour deux ou trois, c'est moins le cas.
Dans l'école Walter, il y a à peine 60 élèves. Ils sont répartis sur 3 classes, une pour chaque cycle. Dans cette partie du quartier, il n'y a pas assez d'enfants pour justifier une classe pour chaque année d'études. Les enseignants de la rue du Commerce ont ainsi proposé de répartir différemment les élèves sur les deux bâtiments Walter et Commerce. L'argument était que la taille des classes serait alors plus équilibrée, ce qui permettrait de mieux encadrer les élèves plus faibles. Les secteurs scolaires séparés auraient alors été supprimés. Les élèves de la première à la quatrième année auraient tous été dans le bâtiment Commerce, mais les parents de l'école Walter s'y sont opposés de toutes leurs forces.
Nous avons fait en sorte que la fusion que souhaitait le président de l'école à l'époque ne se produise pas, dans l'intérêt de nos enfants.
Jean-Marc Claus est médecin et père de 2 enfants qui vont à l'école Walter.
J'aurais dû amener le plus jeune à l'un des bâtiments et le plus âgé à l'autre. Pour moi, c'est déjà impossible d'un point de vue géographique.
Avec d'autres parents de l'école Walter, il a recueilli des signatures, envoyé des lettres aux responsables politiques et des communiqués à la presse. Au sein de la commission scolaire de la commune, Jean-Marc Claus a clairement exprimé sa position, une fois avec tellement de hurlements que le son de son micro a été coupé lors d'une visioconférence. La politique a cédé à la pression et ce conflit n'est pas seulement lié à la longueur des chemins d'école. Chez la famille Claus à la maison, Antoine montre ce qu'il apprend en ce moment en cours de piano. Il a 12 ans et il est l'un des élèves de la classe de Raoul Albonetti. Vous vous souvenez, Antoine du Tyrol. Après l'école fondamentale, Antoine aimerait aller au lycée des garçons.
Au lycée des garçons, tu finis toujours à 14h. Il y a 2 heures supplémentaires que tu peux choisir. Et là, tu peux faire du sport ou apprendre une langue, comme le russe, le grec ancien. Le japonais et le chinois, je pense, mais je ne suis pas sûre.
En tant que fan de manga et d'animé japonais, Antoine souhaite naturellement
apprendre le japonais, oui, parce que je veux regarder tous les épisodes plus rapidement et communiquer avec les gens au Japon.
L'entrée d'Antoine dans le lycée classique n'a pas toujours été aussi évidente. Au cycle 3.2, c'est-à-dire en quatrième année d'école fondamentale, il a presque dû redoubler. Et son enseignant à l'époque l'avertit que ses notes ne suffiront pas forcément pour aller au lycée classique. Son père intervient aussi.
Il m'a dit de redoubler n'est pas cool. Il faut mieux travailler plus. Donc je me suis mis à travailler et j'ai tout juste réussi l'année. Et en cinquième année, quand j'ai réussi mon bilan du premier trimestre, mon père n'a pas été de bonne humeur. Il m'a dit que j'allais avoir des cours de rattrapage. Et depuis, mes notes se sont améliorées.
Je veux avoir un piano-prof qui français avec
La famille Claus investit de l'argent pour qu'Antoine et son petit frère se débrouillent mieux en français. Antoine avait 6 heures de cours de rattrapage par semaine au début. Ses parents engagent aussi une fille au pair francophone. Et pendant l'été, les enfants vont dans une école de langue à Nice. Pouvez-vous nous révéler combien cela vous a coûté en tant que famille?
Oh, ça a certainement coûté plusieurs milliers d'euros. C'est-à-dire que, bien sûr, les enfants dont les parents ne peuvent pas se permettre ce genre de dépenses ont un désavantage.
Comme beaucoup de parents, Jean-Marc Claus et sa femme ont pris en compte la future école de leurs enfants à l'échat de leur maison. C'est-à-dire l'école Walter et pas celle de la rue du Commerce.
Cette école a une réputation selon laquelle on ne peut pas entrer au lycée après. On n'a pas de classement des écoles fondamentales dans ce pays, mais ce classement existe dans la tête des parents.
Avez-vous déjà regretté habiter dans le quartier de la gare ?
Oui, parfois. C'est-à-dire que quand on m'a dit que mon fils avait des problèmes en français, j'ai pensé qu'il aurait mieux fallu déménager au Limpopperche ou ailleurs. Parce que je me suis dit que cela avait tout de même quelque chose à voir avec le quartier et la prise en charge ici.
Jean-Marc Claus ne s'attendait pas du tout à ce que la situation de ses enfants s'améliore grâce à une fusion avec l'école de la rue du Commerce.
Le problème était l'approche de cette fusion. Il a été dit qu'il faut remplir les classes avec les Luxembourgeois pour avoir suffisamment de personnel pour les enfants en difficulté. Alors je me dis, donc, je vous envoie mon enfant pour que vous ayez plus de personnel et pour que vous puissiez résoudre les problèmes des autres enfants avec ce personnel. Le président de l'école nous a parlé pendant une demi-heure du temps nécessaire pour prendre en charge une famille entière de sans-abri. Alors je lui ai dit, écoutez, vous êtes enseignant, pas assistant social. C'est un problème social et ce n'est pas vraiment à vous de le résoudre. Et là, on a eu l'impression, en tant que parent, que l'on ne s'intéressait plus à l'éducation, mais seulement à « là, ça brûle, et là, ça brûle aussi ».
De retour à la rue du Commerce, où je rencontre un autre père dont les enfants vont à l'école de ce côté du quartier.
Je m'appelle Luc Zinard, j'habite les quartiers de la gare depuis 8 ans. J'ai deux enfants qui vont à l'école de la gare, un en précoce et l'autre au cycle 2.2.
Avez-vous hésité à envoyer vos enfants à l'école ici ?
Je pense que je mentirais si je disais non, que j'étais tout de suite sûr de vouloir envoyer mes enfants à l'école ici. Je dirais que j'aime beaucoup vivre ici, mais je ne voulais pas non plus me retrouver dans une situation où je serais constamment en train de courir dans toutes les directions. Il faut dire que la première fois qu'on voit l'école, on se pose des questions. Le cadre n'est pas vraiment accueillant. Les commentaires que l'on reçoit de l'entourage sont du genre « Oh, l'école de la gare et le quartier gare, c'est pas dangereux ?»
En tant que Luxembourgeois travaillant dans une banque, Luc Zinard ne se considère pas comme le père typique de sa communauté scolaire.
Aussi tout simplement parce que je sais que je représente une exception ici dans cette école.
Luc Zinard estime qu'il serait judicieux de fusionner les bâtiments scolaires du quartier, mais il comprend l'opposition des parents de l'école Walter.
Je pense que c'est tout à fait compréhensible. Tous les parents veulent le meilleur pour leurs enfants. Cela vaut pour moi comme pour les autres. Au niveau des parents, c'est tout à fait normal que tout le monde essaie de se positionner de façon à ce que les enfants aient le plus de chances possible.
Le classement des écoles est dans la tête des parents, selon Jean-Marc Claus. C'est ce que Luc Zinard voit aussi d'une certaine manière. Selon lui, l'école de la rue du Commerce a un problème à cause de sa mauvaise réputation.
Et cette mauvaise réputation est pour moi en grande partie une façade, parce que j'ai rencontré des enseignants très motivés. Je pense qu'il existe un bon travail éducatif à l'école ici. Et puis, il me semble aussi qu'on doit vaincre la peur d'amener ses enfants à l'école ici.
À la gare, la moitié des enfants ne fréquentent pas l'école du quartier. Beaucoup vont dans des écoles privées, d'autres font du tourisme scolaire, ils fréquentent une école fondamentale dans un autre quartier de la ville. Quel est le risque que vous disiez un jour « ça suffit, ça ne va plus pour moi » ?
Il y a bien sûr une ligne rouge, non ? C'est-à-dire que dès que je sens que mes enfants sont en retard par rapport aux autres enfants, même en dehors de l'école, j'ai la responsabilité envers mes enfants de dire « ok, peut-être que je dois changer quelque chose. » Et je ferai certainement tout ce qui est nécessaire si c'était le cas. Jusqu'à présent, je n'ai pas eu cette impression. Et je dois dire que ça dépend toujours un peu de la façon dont on voit les choses. Je pense qu'une école est plus qu'un simple transfert de matière. La dernière chose que je veux, c'est mettre mes enfants dans une bulle qui ne correspond pas à la société. Donc, je les laisserai aller à l'école ici aussi longtemps que je le jugerai raisonnable.
Mais la situation n'est plus raisonnable. C'est la conclusion à laquelle est arrivé Rui da Costa. C'est le troisième et dernier père dont je veux vous parler dans cet épisode. Son point de vue sur l'école est très différent de celui de Jean-Marc Claus et de Luc Zinard.
Moyen.
Moyen.
Rui da Costa habite dans un appartement non loin de l'école Walter avec sa femme Johanna et ses deux fils, Witold et Miloš. Jusqu'en deuxième année d'école fondamentale, Witold est allé à l'école ici et il était l'un des meilleurs élèves de sa classe. En troisième année, il a changé d'école et va maintenant à l'école Sainte-Sophie au Kirchberg, une école privée qui propose également le programme scolaire traditionnel. La décision n'a pas été facile pour Rui da Costa.
Je n'ai jamais voulu que mes enfants aillent dans une école privée. Ça n'a jamais été mon truc parce que je viens d'une famille modeste. Mais je ne voulais pas qu'ils aillent à l'école dans la rue de Strasbourg.
La famille da Costa a refusé d'observer passivement la discussion sur l'organisation des écoles du quartier.
Une pétition est arrivée, ensuite la ville a changé d'avis et nous a dit « Non, on ne procède pas avec la fusion ». En avril de cette année, l'histoire a recommencé et c'est embêtant. Tu ne sais pas qu'est-ce que se passe avec les enfants. Ils vont là-bas, est-ce que l'un reste ici? Et là, je suis devenu furieux. Et c'est pourquoi nous avons pris une décision avec Johanna. Je sais, notre logistique n'est pas super, mais on a un beau tram qui est gratuit, qui est pratique, et on accompagne les enfants à l'école Saint-Sophie. Voilà.
Le fait est que Rui da Costa est lui-même allé à l'école ici dans les années 80. Dans la rue de Strasbourg, c'est-à-dire dans l'ancienne école qui se trouvait à l'époque au coin de la rue du Commerce. Ses parents travaillaient à l'imprimerie centrale qui se trouve juste à côté. À la maison, la famille parle portugais et à l'école, les choses ne se sont pas bien passées pour Rui da Costa.
J'ai eu de la chance parce que l'enseignante de la sixième année d'école primaire a vu que j'étais très faible en allemand et elle m'a donné des cours d'appui chez elle. Elle a toujours pensé que j'étais très bon dans toutes les autres matières, sauf en allemand. Elle m'a dit, nous allons essayer de te faire entrer au préparatoire. Parce que de toute façon, les enfants de la rue de Strasbourg n'avaient que très peu de chances d'aller directement au lycée. Je pense honnêtement qu'il y en avait un seul qui a été accepté au Michel Rodange. Mais c'était un luxembourgeois qui parlait très bien l'allemand.
Rui da Costa a eu de la chance dans la malchance une deuxième fois au cours de son parcours scolaire, au LTB, le lycée technique de Bonnevoie. En dixième année, il échoue à l'examen de rattrapage d'allemand. Et l'année suivante, quand il recommence en dixième année, sa nouvelle classe lance un groupe de théâtre.
Le nom de la troupe était LTBissimo et le directeur était très fier de nous. Enfin, une image positive pour le LTB, le théâtre, la culture.
La troupe participe à des concours de théâtre entre lycées.
Et c'est ainsi que je suis allé au conservatoire, parce que le jury voulait nous voir au conservatoire. J'ai ensuite fait un casting pour jouer dans la pièce de Guy Rivenich, Eisefresser, avec Frank Hoffmann, où j'ai rencontré tous ces gens, où j'ai rencontré Steve.
L'acteur Steve Carrier.
Steve m'a dit que j'étais la personne idéale pour jouer un étranger portugais parce que c'était une pièce sur l'immigration et il m'a dit que mon luxembourgeois était vraiment mauvais mais que c'était parfait pour ce rôle. Et il avait raison parce que j'étais effectivement très mauvais.
Rui da Costa travaille actuellement en tant que comptable. Il est convaincu que le théâtre lui a permis de réussir son ascension sociale. Tu as bien réussi, peut-on dire ça comme ça?
Oui, parce que je voulais devenir quelqu'un. Et le théâtre m'a aidé à ce niveau. Parce que tu vois, si ton école n'a pas d'activité culturelle, et c'était mon cas, tu te dis, d'accord, il n'y a rien à faire ici. Mais si tu trouves une activité culturelle ou une activité sportive, je pense que cela aide beaucoup pour que les gens travaillent un peu plus à l'école, parce qu'ils font quelque chose qu'ils aiment. La culture m'a beaucoup aidé à progresser.
Rui da Costa souhaite que ses enfants aient plus de facilité que lui. Son souci est que le niveau scolaire dans la rue du Commerce est tout aussi faible qu'autrefois et que les enseignants n'attendent pas grand-chose de leurs élèves.
J'ai peur que l'enseignant pense que le niveau est trop bas, c'est-à-dire que mon enfant aurait alors le même niveau. Je pense que nous devons donner une chance à tout le monde et que chacun doit suivre le même programme. Et je ne veux pas que les enfants vivent ce que j'ai vécu à l'époque. C'est ça qui me fait peur par rapport à mes enfants.
La diversité sociale est une bonne chose, mais il y a des limites. C'est ce que m'a dit une mère du quartier de la gare à qui j'ai parlé de la fusion des deux sites scolaires. Et cette phrase me semble décrire une réalité qui existe en dehors de cette situation du quartier de la gare. Une réalité à laquelle notre système scolaire est confronté. Ceux qui peuvent se le permettre cherchent à créer le meilleur environnement scolaire possible pour leurs enfants. À travers le choix du lieu de résidence, à travers le tourisme scolaire ou encore le passage à une école privée. Pour les écoles dans les milieux socialement vulnérables, cela risque de devenir un piège.
Allô, hier ist Andreas Satya.
Allô, hier ist Pierre Oppel von Radio Natura.
Allô.
Allô. Das hat jetzt direkt geklappt, super.
Andreas Hadjar est sociologue de l'enseignement. Il analyse l'influence de l'environnement scolaire sur les performances des élèves de l'école fondamentale luxembourgeoise. Et il dit que si les enfants dits défavorisés sont majoritaires dans leur classe, cela accroît leurs difficultés.
Alors pourquoi est-ce que c'est le cas? Dans ces environnements, les élèves les plus susceptibles de redoubler sont ceux avec des déficits de performance et souvent avec un manque de motivation. En fin de compte, il manque à ces élèves aussi d'autres élèves avec de meilleures conditions d'apprentissage comme ressources. Parce que quand on a des camarades de classe qui aiment l'école, par exemple, on peut aussi faire les devoirs ensemble. Au moment où les meilleurs élèves, si vous voulez, sont absents, un tel échange n'aura pas lieu.
Le chercheur a également remarqué que les enseignants se comportent différemment selon l'environnement scolaire.
Des enseignants au Luxembourg nous ont dit que, oui, dans ces classes, on ne travaille pas avec un objectif d'apprentissage spécifique en tête. Il faut plutôt se réjouir lorsque les élèves atteignent un certain bien-être, c'est-à-dire se sentent bien, et surtout quand ils continuent à suivre les cours. D'une part, c'est une bonne chose parce que nous avons besoin de bien-être à l'école et nous devons nous efforcer de trouver comment réduire l'aliénation scolaire. Mais d'un autre côté, cela signifie qu'on ne fixe pas de vrais objectifs pour ces élèves. Et bien sûr, nous savons que dans ces classes, il y a aussi plus de difficultés au niveau de la discipline. Et nous savons que même les élèves qui ont envie d'apprendre sont plus susceptibles de se plaindre dans les discussions de groupe, car leur environnement les perturbe et les empêche d'apprendre. Il y a beaucoup d'études qui montrent que dans des environnements aussi homogènes, tout le monde a quelque chose à perdre.
Mais partager différemment les ressources scolaires ou même amener les enfants en bus vers d'autres écoles demande beaucoup de courage de la part des responsables communaux chargés de l'organisation de l'école. Et l'expérience acquise à l'étranger montre que des décisions visant à augmenter la mixité sociale n'ont pas toujours l'effet escompté. C'est parce que les familles les plus privilégiées trouvent souvent des façons et des moyens d'y échapper. On peut aussi donner plus de moyens financiers aux écoles dans des environnements difficiles. Par exemple, pour que plus d'enseignants puissent être présents dans une classe.
Und das heißt sicher auch Investition in Lehrpersonal, sicher auch Investition in Unterstützung.
Cela signifierait aussi certainement des investissements dans le personnel enseignant et aussi des investissements dans le personnel de soutien. Parce que la plus belle école mixte n'apporte pas grand-chose si elle n'inclut pas des enseignants qui savent gérer la situation. Certains pays le font ainsi. Ils investissent énormément dans le corps enseignant. C'est souvent le cas dans les pays nordiques.
Ouvrons une brève parenthèse à propos du thème des ressources humaines. Au Luxembourg, les écoles avec des élèves plus défavorisés reçoivent en effet plus d'argent. Pour faire cela, il faut bien sûr savoir exactement où se situent ces écoles.
On n'a pas de classement des écoles primaires dans ce pays, mais ce classement existe dans la tête des parents.
Ce classement n'est pas seulement dans la tête des parents, mais il existe aussi en noir et blanc dans un document non publié du ministère de l'Éducation. Pour chaque commune et école fondamentale du pays, on examine les milieux d'origine des élèves. Quelles langues sont parlées à la maison? Que gagnent les parents? S'agit-il de familles monoparentales ou de parents au chômage? L'existence d'un tel classement socio-économique des écoles n'est pas secret. Mais il n'est pas publié par peur de stigmatiser les écoles. À mon avis, ce n'est pas un argument convaincant. Si on veut améliorer quelque chose, les faits doivent être connus. Et le classement dans la tête des parents existe de toute façon. J'ai donc fait une demande au ministère de l'Éducation pour pouvoir consulter ce document. Et en me référant à la loi sur la transparence, j'ai effectivement pu l'obtenir. Parmi les écoles les mieux classées sur le plan socio-économique, on trouve par exemple Recanges-sur-Metz, Niederanven, Garniches ou encore Weiler-Latour. Ces communes envoient environ 70% de leurs élèves au lycée classique. Les élèves des communes de Differdange, Trois-Vierges, Wiltz ou Esch sont parmi les plus démunis sur le plan socio-économique. Et ici, il y a environ 20% des élèves qui ont été orientés vers le classique. Si notre système scolaire était plus équitable et si, par exemple, la formation professionnelle était mieux valorisée, il ne devrait pas y avoir d'écart aussi extrême lors de l'orientation entre les communes pauvres et riches. Et puis, ces disparités extrêmes ne se reflètent absolument pas dans la répartition des ressources. La loi impose en fait une limite pour les écoles défavorisées, un maximum de 20% d'augmentation des moyens financiers est prévu. Le ministère de l'Éducation peut mettre à disposition des enseignants supplémentaires, et c'est aussi ce qui se passe, mais il n'y a pas que les écoles à faible score qui en profitent. Et puis, il y a un autre problème. Les communes avec plusieurs écoles peuvent décider elles-mêmes de la manière dont elles distribuent leurs enveloppes de personnel entre celles-ci. Et ainsi, l'idée de la répartition selon les besoins sociaux est souvent encore davantage diluée. C'est ce que critique aussi l'Observatoire national de la qualité scolaire. Il est donc clair que dans les conditions actuelles, nos écoles sont moins capables de gérer les inégalités sociales que dans d'autres pays. Pourtant, notre système scolaire n'est pas forcément en manque de ressources. En tout cas, lorsqu'on compare la situation à celle à l'étranger, le Luxembourg est l'un des pays au monde qui compte le plus d'enseignants par élève et ses enseignants sont parmi les mieux payés. J'aimerais encore vous raconter une dernière histoire à la fin de ce podcast. Dans le quartier de la gare, ce n'est pas seulement la fusion des bâtiments scolaires qui a été empêchée, mais encore un autre projet a échoué, celui d'une école à journée continue.
À vrai dire, on a toujours rêvé de ça.
Lynn Thomas travaille depuis 18 ans comme enseignante à l'école Walter à la gare en ville. Et il y a quelques années, son équipe a eu l'occasion de réaliser le rêve d'une école à journée continue.
Soudainement, la commune a fait une demande pour trouver un quartier ou une école qui accepterait de participer à la création d'une école à plein temps.
L'école Walter est retenue pour le projet.
Il faut dire qu'il y avait beaucoup de volonté parce qu'il était clair pour nous que c'était la seule ou l'une des seules façons de réduire le fossé entre les élèves forts et les élèves plus faibles.
Un groupe de travail est mis en place, un bureau d'architecture prépare une maquette pour un nouveau bâtiment.
C'était génial et on avait prévu d'ouvrir un espace d'accueil pour les parents où on pourrait créer un café pour les parents, tu sais. C'était vraiment cool, c'était super sympa. On avait prévu un toit plat avec un jardin au-dessus, comme un jardin scolaire et ainsi de suite.
L'idée était donc d'impliquer les parents davantage. Et les élèves n'auraient plus fait la navette entre l'école et le foyer. Les enseignants et les éducateurs auraient travaillé main dans la main pour la prise en charge dans un bâtiment commun.
Le matin, à partir de 7h30 ou 8h, je ne sais plus, il devait y avoir un accueil. Et puis je pense que les cours devaient commencer à 8h30. Et puis il devait y avoir une sorte d'accueil avec petit déjeuner ou quelque chose de ce genre pour les enfants qui n'avaient pas encore mangé en arrivant à l'école. Parce qu'on s'est rendu compte que beaucoup d'enfants arrivaient à l'école sans avoir mangé, ce qui crée de gros problèmes de concentration. C'était censé être une phase où les enfants pouvaient travailler tranquillement ou terminer quelque chose, ce genre de choses. Et après, il était prévu que les enfants restent à l'école jusqu'à 3h30 ou 4h.
Le mardi et jeudi après-midi, il ne devait pas y avoir d'enseignement classique. L'idée était que les enseignants et les éducateurs assurent ensemble la prise en charge des enfants pour encadrer les devoirs et proposer des activités.
Il y a eu beaucoup d'inquiétudes dans le quartier et certains parents étaient vraiment fâchés. Ils se sont fâchés en disant que ce n'était pas possible parce qu'il y avait entraînement de rugby ou solfège ou quelque chose comme ça. On y avait pensé, mais ce n'était pas notre priorité dans ce court laps de temps. On voulait aussi proposer des activités à l'école, respectivement, amener les enfants aux activités ou proposer des sports au gymnase, etc. Mais on n'en est jamais arrivé là pour pouvoir continuer à planifier.
Sans explication, l'échevine responsable du ressort de l'éducation en ville a arrêté le projet peu après les élections municipales de 2017. Bien que le nouveau conseil d'échevin du DP et du TSV ait tout juste inscrit l'école à journée continue dans son programme de coalition.
C'était vraiment dommage. Et un jour, t'en as marre, tu te dis « bof, tu deviens comme ça, enfin, oui ».
Si on veut contribuer à l'égalité des chances en tant que commune, on doit promouvoir le dialogue entre les écoles et les foyers.
Voici Colette Marc du DP. Elle était échevine de l'éducation de 2011 à 2023 et c'est elle qui a initié le projet de l'école à journée continue pour ensuite de nouveau le faire disparaître dans son tiroir.
Je pense encore aujourd'hui que c'était la bonne décision. Je ne pense pas qu'on aurait trouvé de solution. Oui, ça commence comme ça. Il y en a un qui se plaint que si l'école dure jusqu'à 3h30, son enfant ne pourra pas aller au conservatoire à 2h. Ou certaines personnes pensent qu'une école à plein temps va attirer beaucoup d'enfants vulnérables d'autres quartiers, parce qu'on l'avait prévu ainsi que les enfants pourraient aussi venir d'autres quartiers.
Pourtant, il y avait une idée d'offrir une alternative aux parents qui s'y opposaient.
Mon idée à l'époque était qu'il y a une autre école dans le quartier, donc les parents qui ne veulent pas de ce modèle auraient pu envoyer leurs enfants dans cette autre école. Ce que je ne savais pas à l'époque, c'est que beaucoup de parents ne voulaient pas que leurs enfants aillent à l'école de la rue du Commerce.
Il n'y a pas eu d'opposition ouverte au projet de l'école à journée continue. Et il est difficile de dire pourquoi exactement l'échevine a perdu son courage politique. Les critiques de certains parents ont certainement joué un rôle, mais ce que Colette Marthe ne dit pas, c'est qu'il y a aussi eu des hésitations au niveau du service scolaire de la ville, par exemple. Après de nombreuses recherches auprès du conseil d'échevin, de l'opposition, des enseignants et des parents du quartier, je suis arrivée à la conclusion que surtout une chose précise manquait. Un lobby pour les enfants qui ont du mal à se débrouiller dans notre système scolaire et qui auraient bénéficié de ce projet. Des enfants comme Estrella que vous avez rencontrée au tout début de ce podcast. Estrella qui pense à 8 ans qu'elle n'est pas intelligente. Elle cherche en fait d'abord la faute de ses difficultés scolaires chez elle-même. Mais elle se demande aussi comment la situation pourrait changer. J'en ai parlé avec Estrella et sa mère, Isabelle.
Estrella, au début, elle me disait toujours « je veux être président des écoles ». Mais elle m'a dit « mais pas la présidente qui est là au bâtiment. Je veux être la présidente de la présidente. » Alors, tu veux venir ministre d'éducation ? Et elle m'a dit, c'est la femme qui est en charge de tout. Je dis, oui, alors c'est ça que je veux.
Tu me racontes ton histoire ? Qu'est-ce que tu voulais devenir ?
Présidente de l'école.
Et pourquoi ?
Parce que comme ça, tu sais, je peux dire ce que tu dois faire.
Qu'est-ce que tu aimerais changer à l'école ?
Je kiffe que les enseignants ne crient pas autant sur les enfants. Je changerais aussi le nombre des devoirs. J'en ai beaucoup trop, beaucoup trop. Notre enseignante nous donne des textes très longs à recopier, une dictée très longue.
Comment fais-tu quand tu dois faire une dictée à la maison?
Ma maman accroche la dictée ici et je recopie. Elle ne sait pas lire l'allemand. Voilà pourquoi elle fait ça. Mais elle apprend. Je vais lui apprendre. Elle devient meilleure. C'est sûr. Basso, Zesha.
J'aimerais pouvoir partager l'optimisme d'Estrella, que la situation devient meilleure, que notre système scolaire va s'améliorer et devenir plus juste. Au cours de ce projet, j'ai rencontré beaucoup de gens qui sont convaincus que c'est non seulement nécessaire, mais aussi possible.
Je suis tout simplement convaincu qu'un système scolaire équitable est le fondement d'une société véritablement démocratique.
Quand on voit que la situation n'est manifestement pas juste, il faut essayer de la changer.
C'est une mission, je le vois comme une mission. Je veux aider ces élèves à réussir.
J'espère que ça va continuer, que ce projet va s'établir pour de bon, parce que je pense qu'en termes d'opportunités, ça rend le système scolaire luxembourgeois tout simplement plus juste pour nos enfants.
Et pourtant, j'ai des doutes. En effet, il ne suffit justement pas que des personnes individuelles fassent de leur mieux.
L'école luxembourgeoise n'a pas éprouvé un besoin de renouvellement, je pense. On aurait dû être à plusieurs pour réussir à changer quelque chose, pas juste un petit groupe.
Vous étiez des combattantes solitaires.
Oui, oui.
Nous aimons bien dire que nous avons besoin d'un système scolaire équitable et que c'est non seulement dans notre intérêt général, mais aussi dans notre intérêt personnel. Mais y croyons-nous vraiment ? Ceci était Mauvais élève, un podcast Radio 100.7, recherche et rédaction Pia Oppel et Pierre Island, avec le soutien de Tessie Treuss, Jean-Claude Frank, Rick Mertens, Chris Sion, Zemir Demic et Marie Trussard. Son et arrangements musicaux, Chris Simon, coordination Yves Stefani, traduction Philippe von Leipzig. Notre musique de titre, le Gassenhauer de l'Orff Schulwerk, a été enregistrée sous la direction de Laurent Varnier par des élèves du Conservatoire de la ville de Luxembourg. Merci à Joé Alf, Constantin Barburavou, Mike Kalnen, Félix Dunkel, Laurie Krier, Ina Molakava, Lola Schleicher, Julian Zeredinski, Yushan Lulupang, Louis Thiel et Elise Tvimumu.